Le peuple de la mer. Troisième partie, la mer. Chapitre 1. Dominique Augustin Bernard, brigadier des douanes, venait de prendre sa retraite après 25 ans de service. Outre ses vieux uniformes, l'État lui abandonnait généreusement un certificat pour reconnaître son zèle et une pension annuelle de 1 010 francs, avec quoi il rentra au foyer en proclamant « On est rentier à présent !» Mais, malgré ses airs rodomont, quand il vit sa femme découdre les galons des vareuses qui, dégradées, feraient encore bel usage, il sentit une émotion lui serrer la poitrine. « Tout de même, murmura-t-il, on les avait gagnés, c'était de l'honneur. » C'était plus que cela. Sa vie même, pliée aux habitudes régulières que représente l'uniforme, le désœuvrement méthodique qu'on nomme service, les flâneries sur le port, les pronostics quotidiens, et la considération attachée à sa personne qui le faisait saluer du titre de brigadier par toute l'île, même quand il n'était pas en tenue. Maintenant, Bernard était désemparé, comme tous les vieux quand ils gagnent enfin leur retraite. Il ne trouvait plus d'emploi à ses journées, réglé pour un autre personnage, et, vis-à-vis du village, sa condition oisive lui pesait, si bien qu'au voisin qui l'interpellait sans penser « Eh ben, vous v'là tranquille à cette heure !» Il répondait en manière d'excuse « Je crois qu'on l'a pas volé !» Et puis, il entamait un souvenir de cette époque où il vivait, car la retraite est le commencement de la mort, le recroquevillement dans la maisonnette et le jardinet où l'on grignote la menue rente, en s'accrochant au rappel du service qu'on ressasse, ainsi qu'on se cramponne au drap avant de trépasser. Peu à peu, cependant, son existence retrouva l'équilibre dans les nouvelles habitudes que lui donnèrent le soin de la maison, du jardin et le souci des enfants. Les Bernard habitent à gauche, en montant la route de Noirmoutier, derrière l'ancienne demeure des Coëttes que la femme a quittée après la mort de son mari, pour retourner avec ses gars chez les siens, au village de Lignières. Une courette, avec une touffe d'hortensia dans chaque coin, précède la maison. Elle est basse, symétrique. Une porte entre deux fenêtres est couverte en tuiles. Bernard commença par refaire ses peintures, tranquillement, avec soin, en propriétaire. « Depuis le temps que ça chômait, dit-il, le soleil mangeait le bois. » Il peignit en vert ses volets et sa porte, en gris les fenêtres et en rouge les briques qui encadrent les baies et dessinent une frise au ras du toit, sous le chéneau. Puis, il blanchit les murs d'un lait de chaux éblouissant. Il accomplit ses travaux avec lenteur, comme s'il redoutait leur fin et le désœuvrement. Il s'interrompait à chaque coup de pinceau pour juger de l'effet, causer avec un passant, ou s'écarter sur la route, voir si le vent change. En même temps, son jardin l'occupait. Il releva les 4 carrés que sépare l'allée en croix et les entoura de coquilles Saint-Jacques par manière de décoration. Aux angles, il planta des œillets d'Inde et des passe-roses, tandis qu'au pied de quelques roches entassées contre son mur, il enterrait un baquet pour simuler la pièce d'eau. Une girouette s'érigea sur un mât et, comme il lui restait de la couleur, il peignait aussi sa brouette en bleu, blanc, rouge. Pas une planche, pas un pieu n'échappa au coltard ou à l'huile. L'anse des seaux, le manche des outils furent garnis de ficelles et les vieilles chaises refoncées en tresses anglaises. Tout autour de Bernard prenait un aspect conforme à sa nouvelle personne morale. On reconnaissait à première vue la demeure d'un retraité, dans cette maisonnette et ce jardin net comme des jouets, où il y avait tant de choses inutiles et de propreté minutieuse. ces arabesques de coquillages, ces peintures et ce goût de la symétrie dénonçaient l'homme qui s'ingénie à occuper son existence et qui a servi. Il y avait du brigadier des douanes dans ces objets à la parade, et dans cette manie de bricolage, il y avait de l'homme de mer. Cependant, la Bernard poursuivait son éternel tricotage. Entre les repas, on la voyait à sa place, derrière la vitre, maniant les aiguilles qu'elle frottait par intervalles dans ses cheveux pour les faire glisser. C'est qu'il en fallait des chaussettes pour ces quatre hommes, comme elle disait, et des maillots pour ce polisson de petit Pierre qui rentrait toujours en loques. Par instants, son bon visage bouffi s'avançait à la fenêtre et elle criait à Bernard avec conviction, comme s'il s'était surmené dans ses flâneries douanières, « Te fatigue point, c'est ton tour de te reposer !» Et, sérieusement, persuadé tout de même qu'il avait beaucoup travaillé durant sa vie, Bernard répliquait « Oh, on va en douce !» Pour se délasser, il descendait au port, le soir, tailler une bavette avec les vieux causeurs. Bernard avait pris place dans leur rang. Il se retrouvait chaque après-midi le long du canot de sauvetage. Le grand Hourtin arrivait le premier et s'exclamait dès qu'il apercevait Clémotte « Tiens, voilà le pilote !» ou bien « Voilà le brigadier !» si Bernard paraissait. On le nommait lui-même le gabier, et il n'y en avait qu'un seul qu'on appelait par son nom, Tonnerre, le baigneur. Il consultait le baromètre, clignait des yeux vers l'horizon et prophétisait le temps à venir. Ancien pilote, engraissé à terre, Clémotte roulait des cigarettes à longueur de jour, en guettant par habitude les navires au large. Jaloux de sa vue, Hourtin s'efforçait de le prévenir et, dès qu'un point s'élevait sur la mer, les discussions s'engageaient à l'effet de savoir si c'était là un trois-mâts barque ou un trois-mâts franc. Les jours de bonne humeur, Clémotte contait une millième fois l'histoire de cette négresse échangée contre un pot de cambouis dans les parages de Bornéo. Elle avait toujours le même succès et incitait Hourtin, qui a couru le monde pendant 40 années, à redire ses aventures. Hourtin a mangé de tout ce qu'a produit la mer, de la baleine à l'anémone. Il a fait bouillir des méduses pour tremper la soupe dans leur jus et met du goémon en salade. « La mer, c'est la nourrice » répète-t-il. « À donne ringue du bon !» Et tous les poissons étrangers qui entrent au village sont portés chez Hourtin, qui les dévore en se vantant. Au contraire, Tonnerre était taciturne et regardait obstinément la mer des heures à la suite, jusqu'au moment où l'alcool le poussait à des folies gesticulatoires et bavardes. Alors, les gens venaient au pas des portes et se disaient de l'un à l'autre « C'est Tonnerre qui fait la loi !» ou bien « C'est Tonnerre qui joue la comédie. » Puis il rentrait. Et Bernard, haussant les épaules tandis qu'on riait de l'ivrogne, se détournait en déclamant « Là où mène la boisson !» Tonnerre a de la barbe dans le cou, dans les oreilles et jusqu'aux yeux, une barbe inculte et blanche, d'où pointe un brûle-gueule, un nez cramoisi et deux prunelles aiguës qui font peur. À l'ordinaire, couvert de guenilles, il revêt les jours fériés un maillot net, sur lequel sont cousues tant de médailles qu'il en a jusqu'au ventre. Ces jours-là, il marche dans un tintement glorieux et on l'admire. Tonnerre était revenu au pays comme les vieilles bêtes qui retournent crever à leur berceau un peu après la mort du vieux Piron, ce qui fit dire « Un fou remplace l'autre ». On n'a pas fini de rigoler. Baigneur à Saint-Marc, puis à Préfailles, Tonnerre comptait 130 sauvetages et il se vantait orgueilleusement par aphorisme. « J'ai sauvé plus de gars que 10 femmes n'en feraient. Quand Tonnerre est à l'eau, les vagues reculent. » « Je fais peur à la mort !» Il s'achevait dans une masure, avec une pension dérisoire, partageant son existence entre l'eau-de-vie et la mer, qu'il apostrophait comme une maîtresse. Clémotte, Ourtin et Bernard faisaient bien, une fois le temps, la partie à l'auberge, mais ils préféraient aussi la mer, car c'est un besoin de la contempler et de la sentir pour ceux qui ont vécu près d'elle. Il y a trop de luttes dans la vie des marins pour qu'ils puissent se séparer jamais de la grande ennemie, qu'ils aiment à cause de ses ruses et de ses furies même, autant que pour sa coquetterie câline et ses romances nostalgiques. Ils vieillissent par là, sur ses bords, traînent à la plage ou sur le port leur rhumatisme noueux, parlent d'elle et la couvent des yeux, en buvant à son souffle pour achever de vivre. Quand les barques revenaient le soir, du côté où le soleil se couche, groupées sur la jetée, les vieux les nommaient de loin, à mesure qu'elles se détachaient sur le fond écarlate. « Ah, c'est le brin d'amour qui est devant. Et c'est ben la voilure de Perchet qui est en troisième. » Les côtres s'enlevaient en noir, en raison du soleil abaissé derrière eux, et ne se distinguaient que par la silhouette, jusqu'au virage des balises, où ils se révélaient brusquement dans tout l'éclat de leurs couleurs. Les hommes bordaient les grands voiles, et les barques lofaient et s'étalaient dans le port calme, à bout d'air, tandis que leurs canots plus légers les rattrapaient en les heurtant. La sardine vendue, les gars débarquaient, saluaient les vieux, placides, aux bras croisés, et les interrogeaient au passage. « Ça sera-t-il du beau temps, père Clémotte ?»«
Je pense point, mon gars. Ça se brouille dans le sud. »
Bernard serrait la main du douanier de service, parlait un peu des camarades et s'attardait au plaisir de s'entendre nommer « brigadier » par un homme en tenue. L'humidité des soirs montait de la mer, faisait suer les pierres, le garde-fou, et ramenait des cernes blanchâtres sur les vareuses. Avec la chute du vent, s'amplifiait la sonorité de l'atmosphère, et la mer s'apaisait. Les houles longues roulaient une à une, sans déferler, avec de l'ombre à leur versant. Il faisait frais. Les hommes et les femmes gagnaient le village à grand bruit de sabots. Tonnerre trinquait déjà chez Zacharie avec les haquenettes. Ourtin entraîna Clémotte, mais Bernard résista.
« Ah, c'est l'heure de la soupe. La patronne attend. »
Puis brusquement, il vociféra en apercevant un gamin qui patouillait dans une plate.
« Un sacré galopin ! Je t'ai-t-il pas défendu ? Attends un peu que je te rejoigne !»
Il dégringola sur la cale à la charge, les poings brandis, empoigna la bosse du canot et saisit l'enfant. Toute sa colère était tombée. Il serra le petit et lui dit doucement, sans gronder, «
Tu sais bien que tu nous fais du chagrin en allant sur l'eau, hein ? Tu veux point que ta mère pleure ? Avec qui que je jouerai alors ? Tous les autres vont dans les canots. Tu verras, je t'en ferai, moi, des beaux joujoux. »
Bernard ignorait à coup sûr quel joujou il ferait. Il oubliait même qu'il ne savait point autre chose que construire des bateaux, mais il était bien convaincu de trouver des jouets nouveaux pour détourner Petit Pierre de la mer. Et il remonta, en tenant par la main son fils, qui marchait gravement, pieds nus, à côté de lui.